Bienvenue dans le Mac du Lot. Alors tous les jours, nous nous arrêtons un instant sur ce qui fait vivre le département en général. Culture, politique, économie, patrimoine, association, solidarité, bref, tout ce qui vous touche. Investir et préparer l'avenir, voilà les lignes conductrices du budget 2020 qui sera voté les 27 et 28 janvier prochains pour le département du Lot. Serge Rigal, le président du conseil départemental, nous a reçus pour nous expliquer ses orientations axées en 4 points. Maintenir un haut niveau de qualité de service, s'inscrire dans une démarche ambitieuse de transition énergétique, continuer à investir et puis enfin, aucune augmentation d'impôts, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et il est notre invité exceptionnel dans ce nouveau numéro du MAG 46. Serge Rigal, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le président du département du Lot. On vient vous voir aujourd'hui parce que vous êtes déjà en train de faire dessiner le projet, le budget pardon, pour l'année qui vient. Et quand on lit un petit peu votre première impression, vos paroles du début, vous n'êtes pas forcément rassurant sur le financement du département parce qu'il y a des choses qui ont changé.
Oui, tout à fait. On a eu hier le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2020, ce qui nous permet de nous projeter dans les années à venir, parce que c'est ce qui est important, et dire oui que nous sommes inquiets, les départements, parce que nous allons perdre notre fiscalité propre, qui était liée à l'impôt foncier, et pour maintenant avoir une fraction de TVA que voudra bien nous reverser l'État. Donc ça nous... Cette perte d'autonomie financière pour notre collectivité est un souci pour nous, surtout que on sait que par expérience, les engagements des retours financiers par l'État ne sont pas toujours tenus. Nous en avons quand même déjà plusieurs qui sont en cours avec toutes les compétences qui nous ont été transmises en termes de social et jamais les compensations financières qui sont arrivées.
Alors pour nous qui sommes habitants du Lot, en quoi c'est une perte d'autonomie? Parce que finalement, cet argent que vous perdez, on vous dit on va vous la redonner, mais d'une autre manière. En quoi ceci est une perte d'autonomie?
Disons qu'on va nous redonner d'une autre manière, de la manière dont d'autres décideront que nous. On va nous la donner d'une autre manière, de ce qu'on voudra bien nous donner. On nous dit qu'aujourd'hui ce sera à l'euro près, mais demain. Quand on a eu le transfert des compétences du RSA ou d'autres compétences des personnes âgées ou des personnes handicapées, c'était l'euro près, le jour de la prise de la compétence. Mais l'évaluation et les montées de dépenses supplémentaires qui ont lieu depuis sont supportées par les Lotoises et les Lotois, ce qui représente aujourd'hui 25 millions d'euros dans le département du Lot, ce qui représente au niveau national 9 milliards que financent les départements par manque de reconversion de l'État sur de la solidarité nationale, que l'action sociale. Donc je veux dire, c'est pour ça que nous sommes les départements inquiets, parce que nous savons que ce n'est pas toujours dans l'intérêt des collectivités. Deuxièmement, ce qui nous inquiète sur ces mesures-là, et qui est important, parce que les régions fonctionnent déjà avec une enveloppe, donc on pourrait dire les régions fonctionnent, pourquoi pas vous, mais parce que nous ne sommes pas la région. Nous avons des compétences différentes, et tant mieux, c'est bien là l'objectif. Simplement que nos compétences, et notamment nos compétences sociales, sont des compétences dont on ne peut pas deviner à court terme et à moyen terme leur augmentation. Et donc automatiquement, ça nous posera, ça posera certainement des problèmes à la différence des régions ou des communautés de communes qui ont des dépenses plus linéaires, si je puis dire. Donc nous savons qu'en termes de dépenses sociales, elles sont malheureusement toujours en augmentation et que des besoins importants aujourd'hui non pourvus existent.
Mais pourtant, vous avez décidé de ne pas augmenter les impôts. Ça serait quand même pas un mal si finalement il y avait une petite augmentation.
Oui, c'est un choix qu'on a fait de ne pas augmenter les impôts, parce que bien sûr que c'est une pression de plus auprès de nos concitoyens, et que déjà nos impôts sont, on considère toujours trop élevés, mais c'est contre des services, mais le choix et l'engagement que nous avons fait dès le début de mandat, c'est de recourir le moins possible au levier fiscal, ce qu'on a fait une fois en début de mandat, pour financer le service d'incendie, et nous avions décidé de contenir nos dépenses, donc pour ne pas faire appel aux impôts.
Alors, du coup, la question est, comment vous allez faire alors au final, si vous, il y a moins de revenus, ou alors comment vous avez décidé de gérer le département avec tous ces changements?
Alors aujourd'hui, on arrive, c'est un projet, la loi n'est pas votée, mais elle va l'être d'ici peu, mais Un, on a continué nos dépenses de fonctionnement le plus qu'on a fait, on a pu, je veux dire, ce qui déjà nous a permis de pouvoir travailler d'une très bonne façon, en apportant des services toujours auprès de l'Autoise de la meilleure façon. Aussi, on a la chance d'avoir une dynamique fiscale qui nous revient, qui sont les droits de mutation. Chaque fois qu'on va acquérir un bien, 4,5% des droits de mutation reviennent au département. Ça, c'est une dynamique qui est relativement importante, qui est de l'ordre de 20 millions d'euros pour le département du Lot. Et grâce à la péréquation aussi entre départements, les départements les plus riches de France ont bien voulu donner un peu de leurs finances pour les départements les plus modestes, tels que le département du Lot, ce qui, pour nous, cette péréquation nous ramène 6 millions d'euros. Enfin, le tout cumulé dans la mesure où on est dans une dynamique de nos droits de mutation, c'est-à-dire qu'on aura des biens qui vont échanger dans le département et partout en France. On a une position qui, pour le dire, sur l'aspect économique, et en termes d'investissement, c'est pour ça qu'on a un très bon budget d'investissement, nous permettre de pouvoir investir et préparer l'avenir des Lotoises et des Lotois.
Alors du coup, là, on peut penser que les finances du département sont quand même nickel, alors.
Mais aujourd'hui, si on analyse en tant que tel, les finances du département sont, comme vous le dites, sont nickel. Oui, on a une capacité d'endettement qui est de 3 ans, 3 mois, ce qui pour une collectivité comme la nôtre est relativement faible. Moins de 5 millions d'euros d'encours de dette aujourd'hui, ce qui est tout à fait raisonnable. Je veux dire, on a dans notre même strate, on est quasiment à 5 ans, et il y a des départements qui sont là de 10 ans. Donc oui, notre situation est saine, qui n'empêche que quand on a la responsabilité d'un département, on ne doit pas s'arrêter à l'année N plus 1, on doit aller voir au-delà, et cette étude de gelée, parce que je regarde bien au-delà, et que je sais aussi qu'en termes de dépenses sociales, on a des problématiques aujourd'hui qui ne sont pas résolues, auprès des personnes âgées surtout, auprès des personnes handicapées. Bien sûr que peut-être ma sensibilité m'amène à regarder un peu aussi de la France en difficulté, et de dire que plus de 300 enfants placés dans ce département, c'est beaucoup, pas plus qu'ailleurs en pourcentage, mais c'est quand même, ça relève beaucoup, et qu'on doit savoir leur apporter le mieux. Donc, toutes ces choses-là ont une dépense, et malheureusement encore, nous avons une augmentation du RSA qu'il faut donc combler, c'est parce que ça c'est la loi qui nous oblige, et tant mieux, mais d'un autre côté après il faut savoir accompagner ces personnes-là pour sortir de ce système, et ça demande avant tout un investissement.
Les bénéficiaires du RSA sont en augmentation ?
Oui, les bénéficiaires du RSA sont en augmentation sur l'année 2019 aux environs de 4%. Malheureusement, on prévoit que sur l'année 2020, on aura une augmentation du RSA. Alors, on le lie à plusieurs phénomènes. D'abord, aujourd'hui, on peut demander le RSA en ligne, ce qui fait que ça, pour certains personnes, ça simplifie les choses, de ne pas aller voir un travailleur social, de devoir dévoiler toute sa vie, ça leur paraît plus simple en ligne. La deuxième chose aussi, c'est qu'on a eu un contre-coup lié à l'arrêt des contrats aidés, et là aujourd'hui, ce qui nous fait prévoir d'une augmentation en 2020, c'est la réforme de l'assurance chômage, qui va certainement amener quelques personnes à venir malheureusement vers le RSA.
Ce qu'il faut expliquer donc pour les gens qui ne comprennent pas le système, le RSA est effectivement versé par la CAF, mais c'est le département qui le finance.
Ah oui, entièrement. Oui. Oui, c'est une relation entre deux collectivités. Une collectivité et la caisse d'allocation familiale qui, elle, verse, mais c'est nous qu'on paye l'ensemble des prestations. Ça fait partie des choses qui mériteraient d'être simplifiées si on avait la volonté de simplifier les choses. Oui.
Alors moi j'ai remarqué un truc qui m'intéresse, enfin j'ai trouvé ça assez original. Dans vos quatre grandes orientations pour 2020, il y a notamment maintenir un haut niveau de qualité de service, donc vous venez de nous expliquer avec eh bien, les moyens que l'on vous donne, hein, de toute manière. Et j'ai cru comprendre que vous avez fait appel à des agents pour proposer des idées.
Oui, voilà, oui. On a demandé aux agents de la collectivité d'apporter des idées sur la simplification. Enfin, pour eux, ce qui leur semblerait une bonne idée pour avoir un meilleur service ou simplifier la relation à l'intérieur du conseil départemental, pourquoi pas aussi, imaginer. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vois que nos agents contribuent à la simplification des choses en ce qui nous concerne au conseil départemental.
Alors qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette consultation?
C'est en cours. Donc encore, pour vous dire qu'est-ce qu'il en sortira, eh bien, encore quelques semaines.
Serge Rigal est notre invité pour ce numéro du MAC du Lot. Et après la pause, eh bien, nous parlons avec lui de la transition énergétique. Et cela passe notamment par une mesure d'aide à l'équipement d'un véhicule écologique au lotois. On vous en dit plus dans une minute. Serge Rigal, le président du département du Lot, nous reçoit dans ce numéro du MAG du Lot sur CFM Cahors. Nous parlons avec lui de l'orientation budgétaire pour 2020 et qui sera votée par le conseil départemental les 27 et 28 janvier prochains. Parmi les prochaines, les orientations de ce budget, le département compte s'inscrire dans une démarche ambitieuse de transition énergétique. Mais par quels moyens? Comment? La réponse, c'est tout de suite dans la suite de cet entretien avec le président Rigal. Dans votre deuxième orientation, c'est la démarche de transition énergétique que vous dites ambitieuse. Pourquoi ?
On l'a dit ambitieuse parce qu'on a décidé de s'engager d'une façon forte dans les recherches d'énergie renouvelable et dans l'organisation au sein du territoire départemental en considérant le mix, un peu toutes les énergies renouvelables les plus appropriées à un territoire, les plus appropriées aussi à notre département, parce qu'on peut avoir des énergies renouvelables qui soient très intéressantes à développer dans le Lot et peut-être pas dans le Tarn-et-Garonne, par exemple. Je pense à l'énergie bois. Aujourd'hui, chez nous, on peut développer des réseaux de chaleur comme on en a développé, et peut-être que d'autres départements, parce que la ressource est moindre, n'ont pas ce type d'énergie, et peut-être d'autres type d'énergie à développer que nous on n'a pas. Enfin, je pense notamment à l'éolien, où nous on n'est pas un département de vent, donc on ne développe pas très peu d'éolien, c'est une évidence, mais bien sûr que nos collègues de l'Aude ou de l'Hérault, par nature, vont développer de l'éolien. Voilà. Donc nous, bien approprier le développement des énergies renouvelables sur le territoire, les adapter au territoire, faire attention de ne pas défigurer non plus par développement anarchique de photovoltaïque sur tout l'ensemble du territoire, de ne pas défigurer notre territoire aussi. Ça, on en a quand même la ferme volonté. Sur le photovoltaïque, nous, ce qu'on souhaite, eh bien, c'est déjà de couvrir toutes les toitures qui existent. Mais déjà, ce serait une belle chose. Mais je comprends bien que les sociétés investisseurs n'ont pas envie de s'arrêter là. Mais voilà. Nous, le débat il est là-dessus. Et le débat est de travailler sur le mix. Et notamment, une chose qui nous interroge toujours, pour savoir si on ne peut pas aller plus loin, sur l'hydraulique, qui a un très bon rapport de rentabilité, donc oui, nous sommes en train de regarder un peu plus près si on ne peut pas développer des petites productions d'énergie sur l'hydraulique.
En plus, évidemment, de cette démarche qui est toujours en cours depuis longtemps, qui est de valoriser les immeubles publics, enfin, quand je dis valoriser, l'isolation, le faire en sorte qu'ils soient le plus économe en énergie possible.
Oui, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, partant de là, il faut, et on va inciter, à partir de 2020, les collectivités à investir sur des bâtiments à énergie positive pour les bâtiments neufs. Inciter aussi les collectivités à faire des grosses économies d'énergie, moins 40% pour avoir les aides du département, des aides qui vont être bonifiées aussi pour vraiment lancer une nouvelle génération de bâtiments au sein de la collectivité. Ça fait déjà de nombreuses années que nous investissons sur des bâtiments à énergie positive. On en a assez d'expérience pour dire que l'investissement en vaut le coup, et donc inciter maintenant les communes, même les plus petites, à aller vers ça. Inciter les communes à s'équiper de véhicules électriques, soit des véhicules utilitaires ou pas, donc une aide supplémentaire, et la volonté aussi d'inciter l'usager, tout simplement, à s'équiper de véhicules donc électriques ou hybrides rechargeables, vélo électrique aussi, pour vraiment entrer dans cette ère de véhicules propres. Donc ça, c'est un souhait de la collectivité de proposer cette aide dès le budget de 2020.
Avec une enveloppe que vous avez comptabilisée de combien ?
On a aujourd'hui mis une enveloppe d'un million d'euros pour les deux années à venir, de façon à pouvoir répondre. Mais je l'espère que cette enveloppe sera largement utilisée, ce qui prouverait une grande prise de conscience des Lotoises et de Lotoises à l'utilisation des véhicules propres.
Quelles seront les conditions pour en bénéficier ?
Être Lotois, Voilà, c'est
logique.
Voilà, c'est une belle condition.
Ouais.
Et ensuite, eh bien, voilà, c'est acheter un véhicule électrique ou à énergie ou hybride rechargeable. Hein.
Ce qui veut dire que concrètement, sur l'achat d'un véhicule électrique, ça serait une aide qui serait de combien est-ce que vous avez encore décidé le pourcentage sur le prix ou...
Non, ce sera un montant, un forfait par véhicule. Donc, quelques petits points encore avant de le publier. On le publiera au moment du budget, mais parce que peut-être qu'on aura deux niveaux d'aide pour les gens qui sont imposables et non imposables, qui seront aux environs des 3000 euros. Mais voilà, ça demande de la précision. Mais ce sera une aide quand même qui sera conséquente, qui sera variable, tout simplement des personnes imposées ou non imposées.
Alors, votre troisième point, c'est de continuer à investir. Alors, depuis tout à l'heure, on parle effectivement des difficultés que rencontrent les départements avec les finances qui fondent. Alors, on ne va pas dire comme neige au soleil, mais bon, il y a une incertitude en tout cas. Et pourtant, vous décidez de continuer à investir. Pourquoi ?
On décide de continuer à investir et on décide de continuer à ne pas s'endetter. Vous voyez, comme quoi c'est un peu contradictoire. Et pourtant, c'est la vérité. Ça fera la deuxième année qu'on aura un budget d'investissement relativement fort, plus de 40 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on a des besoins d'investissement qui sont importants, parce que nous en avons les possibilités. Alors, je sais très bien que c'est difficile à comprendre, d'un côté, d'avoir des restrictions budgétaires. Et le fait aussi de la loi qui nous limite à 1,2 de nos dépenses de fonctionnement, et de notre côté, de dire qu'on a un très bon budget d'investissement. Mais la réalité est là, et donc on va continuer à investir, notamment sur nos propres bâtiments, sur les collèges, où il nous reste beaucoup à faire, et notamment en termes d'équipement des collèges, en termes d'isolation. Aussi un collège neuf à Bretonneux qui va pouvoir en 2020 voir son permis de construire déposé et l'attribution des marchés. Sur les routes, bien entendu, avec de grands chantiers comme la déviation de Vérac qui va commencer dans quelques semaines maintenant, et d'autres chantiers routiers importants. L'entretien de nos routes, déjà, c'est un chantier en soi, et continuer à investir aussi pour nos propres équipements qui sont nécessaires aussi à la collectivité.
Et puis on en a parlé, votre orientation quatrième, eh bien, c'est 0% d'augmentation d'impôts. La question que j'ai envie de vous poser, qui est un peu plus personnelle, Serge Rigal, on est dans une période où on approche les municipales, il y a des maires qui ne veulent pas se représenter tellement la difficulté devient énorme. Est-ce qu'il en est pareil pour un président de département ? Est-ce qu'il peut être découragé ?
On a un sur les maires qui ne veulent pas se représenter. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est à peu près dans le même nombre de maires qui ne se représentent pas qu'il y a 6 ans. Hein. À peu près 30%, 35% des maires, comme chaque fois, ne se représentent pas, donc pas beaucoup plus, tout compte fait. Parfois même dans certaines communes, malheureusement, il y a de la rivalité. Je dis malheureusement, non pas que je sois contre le débat politique, mais souvent il n'est pas politique, il se tourne en querelle, et c'est bien dommage.
Vous parlez des chiffres dans le Lot, là ?
Dans le Lot, je vous parle. Dans le Lot, donc je veux dire que c'est pas... On peut avoir la même vision au sein des conseils départementaux, des présidents qui peuvent être découragés pour plusieurs raisons, et d'autres qui peuvent aussi se dire vouloir continuer. Il n'y a pas de règle en soi, et la situation n'en est pas au point que tout le monde doit abandonner le navire. Ça peut être des moments où, au contraire, il faut être présent et essayer de préparer l'avenir pour nos concitoyens.
Quel est votre œil politique sur la situation que traverse actuellement la France, entre la crise des gilets jaunes, les grèves que nous subissons actuellement? Qu'est-ce qui ne va pas, d'après vous? Est-ce que vous êtes inquiet?
Oui, inquiet, oui. Moi, je crois tout simplement... la crise des gilets jaunes en était, je dirais, au départ, révélatrice de cette crise. C'était qu'on n'est peut-être pas assez à l'écoute des gens. Le pouvoir s'est trop éloigné, à mon avis, des gens qui sont dans la difficulté. Il y en a, bien sûr que les départements, on peut en parler plus facilement que quiconque. Hein. On connaît cette difficulté, on connaît ces gens qui sont en souffrance. On sait que peut-être dans quelques jours, il y a des enfants qui n'auront pas de cadeaux à Noël. Et oui, c'est la vérité, même dans le Lot. Ou s'ils ont des cadeaux, c'est parce que la générosité aura fait qu'on aura donné des cadeaux à ces moments-là pour ces enfants-là. Donc je crois que ces gens-là ont l'impression de ne pas être entendus, et je pense qu'ils ne le sont pas par moment. ça crée de la colère. Il faut qu'on soit plus à l'écoute. Une société ne peut avancer que si elle ne laisse personne au bord du chemin. Et tant qu'on laissera des gens au bord du chemin, on n'avancera pas. Et la preuve, elle est faite aujourd'hui. Elle est faite avec les gilets jaunes. On a délaissé des gens au bord du chemin, ils nous ont rattrapés. Aujourd'hui, on a d'autres pour d'autres motifs. Mais tout simplement, je crois que tout le monde a envie d'une réforme des retraites. Tout le monde a envie d'une réforme. Il faut qu'on prenne le temps de parler, d'expliquer ce qu'on veut faire. Et je crois qu'à un moment, là, il a manqué peut-être de pédagogie. C'est facile à dire quand on est à ma place, peut-être plus compliqué à faire quand on est à la place du gouvernement. Mais je crois qu'il faut qu'on explique, qu'on se parle beaucoup plus. Il est évident qu'il faut faire une réforme des retraites. Ça, j'en suis convaincu.
Mais c'est la bonne méthode, celle qui est là.
Moi, je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Je n'ai pas ces éléments. Ce n'est pas la bonne méthode. À la mesure, tout le monde est dans la rue aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut qu'on se parle. Donc, peut-être la méthode est bonne, elle est mal expliquée. Et il faut qu'on arrive à discuter. Il y a des choses que j'ai du mal un peu à comprendre. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne du temps à entendre, à comprendre. Nous-mêmes, on le dit souvent, les présidents des départements, n'est pas entendu par ce gouvernement sur nos difficultés, sur notre proximité avec le citoyen. Quand je dis qu'on manquera de moyens demain pour nos personnes âgées, nos personnes handicapées, on a l'impression de ne pas être entendu. Et pourtant, on voit cette souffrance dans nos maisons de retraite. On voit nos souffrances des personnels dans la maison de retraite. Qu'il faut dire, oui, entendez-nous, c'est pas se plaindre pour se plaindre, c'est pas du tout notre volonté. Nous, c'est de dire, on est auprès des gens, entendez-nous. Mais je peux entendre que tout le monde n'a pas cette chance de vivre aussi près des personnes, et c'est normal, mais il faut qu'on nous écoute un petit peu, oui.
Merci Serge Rigal. Le vote du budget, c'est les 27 et 28 janvier 2020. Vous êtes confiant ?
Oui, bien sûr. À l'heure qu'il est, je sais que notre budget sera un bon budget de 2020, avec plein de projets, l'envie de faire des choses nouvelles, notamment en termes d'environnement. Et je suis ravi de voir que mes collègues ont abondé dans ces idées de vouloir verdir, si je puis dire, entre parenthèses, nos politiques. Et je pense que c'est qu'un début, il faudra encore aller plus loin demain. Mais c'est quand même satisfaisant de voir que toute l'Assemblée départementale, à l'unanimité, suit cette volonté.
Merci beaucoup, Serge Rigal.
Avec plaisir.
C'était Serge Rigal, le président du département du Lot sur CFM Cahors. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rediffusion tous les jours à 17h et disponible en podcast sur cfmradio.fr, rubrique les émissions, puis le mag 46. Si vous-même d'ailleurs vous avez des informations à nous communiquer pour nourrir ce mag, ou même si vous souhaitez animer votre propre émission de radio, sachez que CFM vous ouvre le micro. Écrivez-nous sur redaction.cahors@cfmradio.fr. À la suite de votre programme, c'est maintenant sur CFM Cahors.